contre la vie chère.
Jusqu'au 28 avril, sur le moins cher des deux, Origine France, modalité sur intermarché.com. Pour votre santé, limitez les aliments gras et les sucrés.
C'était bien ce leasing électrique. Ça rendait vraiment la voiture électrique accessible.
Oui, mais Fiat n'a pas attendu ça pour être accessible.
What?
Bah, Fiat étant le bonus écologique de 7000 euros à tous.
3000 euros de remise en plus?
Et la Fiat 500 électrique est à partir de 79 euros par mois seulement.
Plus de prise de tête. On file chez Fiat.
Fiat, l'électrique pour tous, mais surtout pour vous. LLD 37 mois, apport de 2650 euros, bonus éco 4000 euros, remise éco Fiat 3000 euros et prime à la conversion de 1500 euros déduits si accord crédit part jusqu'au 30 avril. Détails sur Fiat.fr. Pensez à covoiturer. Fiat.
Europe 1 soir.
19h48 sur Europe 1, le chef du renseignement militaire israélien jette l'éponge. Le général Aaron Aliva a donc présenté sa démission aujourd'hui, âgé de 56 ans. Il évoque sa responsabilité de commandement dans l'attaque terroriste du Hamas le 7 octobre. Bonsoir Frédéric Ancel.
Bonsoir.
Merci d'être l'invité d'Europe 1 soir. Vous êtes docteur en géopolitique, maître de conférence à Sciences Po Paris. Alors d'abord, c'est le premier haut responsable israélien à démissionner depuis cette attaque il y a 6 mois. Qu'est-ce qui lui est reproché précisément ?
Alors pour l'instant, officiellement rien, puisque par définition, la commission d'enquête qui se mettra sur pied n'est pas encore, ne prévaut pas encore, puisqu'on est en pleine guerre. Mais il est bien évident que sur une telle catastrophe, le chef des renseignements militaires est immédiatement sur la sellette. D'ailleurs, c'est ce qui s'était produit à deux reprises, enfin des démissions, s'était produite à deux reprises en 1973. Début 1974, après les premiers jours catastrophiques de la guerre du Kippour. C'était la fameuse commission Agranat qui s'était mise sur pied et qui avait établi des responsabilités. Et c'était allé très haut parce que à l'époque, la première ministre, hein, Golda Meir, avait finalement démissionné, ainsi que le ministre de la Défense, et pourtant prestigieux, Moshe Dayan. Et puis ça s'est produit une deuxième fois, une vague de démissions. C'était en 82 et 83, après la guerre du Liban. Et ses échecs et ses avanies. Et là, pour le coup, c'était sous le règne, en quelque sorte, de Menachem Begin. Donc là, j'ai envie de vous dire que le chef de l'AMAN, donc le renseignement militaire, il prend les devants. Hein, avant même d'être flétri par une commission d'enquête, bah, il décide de partir de son propre chef.
On ne lui a rien reproché, vous l'avez dit, mais il y a quand même des failles qui sont très claires et dont les familles des victimes et des otages se font écho très régulièrement. Il semble quand même qu'il n'ait pas réagi à temps et finalement que l'armée ait mis trop de temps à arriver. Enfin, il y a plein de points. Hein. Il y a le temps de réaction et puis il y a cet aspect-là et il y a l'aspect prévention aussi.
Absolument, vous avez raison, mais quand je dis qu'on lui reproche rien officiellement, voilà. Parce que pour l'instant, effectivement, on est hors commission d'enquête, mais il est bien évident qu'une fois qu'elle sera mise sur pied, elle rendra des conclusions qui, de toute façon, a posteriori, le stigmatiseront, donc, et pour des raisons que vous avez bien dites. Alors simplement, en Israël, l'opinion publique, et à juste titre, reproche pas tellement à l'armée, au chef de l'armée, au chef de renseignement, les erreurs, les retards et les avanies, mais reproche tout ça au Premier ministre. Pourquoi ? Parce qu'Israël est une authentique démocratie. Et fondamentalement, celui qui doit assumer, comme l'assumèrent d'ailleurs à l'époque, leurs responsabilités, je les ai cités, Golda Meir et Menachem Begin, c'est évidemment les Premiers ministres. D'autant plus que Netanyahou, pour le coup, était au pouvoir au moment où le pogrom du Hamas est intervenu le 7 octobre dernier. Il était au pouvoir, quasi sans discontinuer, depuis 14 ans. Autrement dit, c'est lui qui a donné l'impulsion principale des missions à confier au service de renseignement. Et en fait, il avait littéralement abandonné l'idée que le Hamas pouvait maintenir un très haut niveau à la fois de cruauté, de détermination et de capacité technique. Si vous ajoutez à ça la cerise technologique sur le gâteau, cette fameuse barrière à 1 milliard de dollars, eh bien, vous trouvez une responsabilité qui sera de toute façon écrasante, surtout sur le Premier ministre.
Alors, évidemment, il y a une très très forte responsabilité de Benjamin Netanyahou, mais il y a quand même des failles des services de renseignement, parce qu'ils sont accusés d'avoir mal interprété des signaux qui auraient dû les alerter, parce que le Hamas a préparé cette opération pendant des mois, peut-être même des années.
Absolument, pendant de nombreux mois, et le comble de cette histoire-là, le comble du tragique en quelque sorte, c'est que, vous savez, on est sur des territoires extrêmement petits, donc les plus proches habitants des kibbutz voisins de la barrière habitaient à 800-900 mètres hein, de la barrière, et immédiatement derrière cette barrière, eh bien, ils voyaient des combattants du Hamas s'entraîner,
et oui.
Mais pendant des mois. Et si vous voulez, donc il faisait remonter l'information, les soldats bien évidemment le voyaient aussi, mais ils considéraient que c'était une ruse du Hamas pour maintenir en quelque sorte l'inquiétude ou l'angoisse du côté israélien, mais qui n'en ferait rien à terme. Et ce qui est fou, c'est qu'il y a 50 ans, presque jour pour jour, c'était exactement ce qui s'était produit au début de la guerre de Kippour, parce que les Égyptiens, pendant des mois, s'étaient entraînés à franchir le canal de Suez, et crânement à l'époque, d'ailleurs avec la même morgue dont ont fait preuve les Israéliens en octobre, enfin dans les mois bien sûr, qui ont précédé le pogrom de 2023, de la même manière, ils ont considéré que, en réalité, les Arabes n'oseraient pas attaquer. Je dis bien les Arabes de manière générale, parce qu'il faut remonter encore plus loin dans l'analyse, je le dis d'un mot, il y a en Israël depuis toujours une espèce de méconnaissance volontaire ou de manque d'intérêt ou de manque d'appétence en tout cas pour ce qui concerne l'adversaire ou le partenaire arabe quel qu'il soit, et là pour le coup ça contribue aussi à expliquer cette catastrophe.
Oui, ils les ont sous-estimés. Il y a un autre point peut-être qui peut être reproché au général Aliva, qui est donc le chef du renseignement militaire israélien, c'est d'avoir sous-estimé la riposte iranienne au raid en Syrie.
Alors, je pense que là, pour le coup, on a affaire à quelque chose de moins grave. D'abord, parce qu'évidemment, les conséquences ont été infiniment moins graves. Voilà. Mais surtout, je pense que là, il s'agit moins d'un problème militaire que d'un problème résolument politique. Je veux dire par là qu'il est difficile pour le chef des renseignements militaires de savoir quelle décision politique, finalement, va prendre tel chef d'État situé par ailleurs beaucoup plus loin. Hein, le Hamas, en principe, devait être espionné en permanence par les services de renseignement israéliens. Encore une fois, des territoires sont tout petits. Beaucoup de prisonniers du Hamas sont dans les prisons israéliennes. Il y a des informateurs israéliens. Bon, tout cela est beaucoup plus difficile en Iran. Donc moi, je pense que il a envisagé, je peux me tromper, mais je pense qu'il a envisagé de partir, oui, peut-être après l'affaire iranienne, mais qui finalement s'est plutôt soldé par quelque chose de positif, par une victoire finalement, au moment de, avant que la commission d'enquête se mette sur pied, et peut-être, je vais peut-être vous surprendre, peut-être aussi quelques heures avant la fête de Pessah, qui est extrêmement importante en Israël et au sein du peuple juif.
Voilà, c'est ce soir le début de la Pâque juive. On parlait de l'Iran, on le rappelle, c'est l'Iran qui a financé, qui a armé le Hamas pour l'attaque du 7 octobre. On en est où de la relation, si on peut dire, du rapport entre l'Iran et Israël? Est-ce que là, on en a fini de la montée en tension? Est-ce que c'est calmé ou est-ce qu'on peut imaginer que ça va recommencer?
Alors, à court terme, la crise est résorbée. C'est une crise, elle naît, elle se développe, elle connaît son acmé. L'acmé, ça a été la double attaque militaire de la semaine dernière. Et puis la crise, d'une façon ou d'une autre d'ailleurs, elle finit par se résorber. Là, c'est ce qui se passe très manifestement, puisque de part et d'autre, on a dit, on a employé les mots et la scénographie qui convient parfaitement à une résorption de la crise. Alors maintenant, moi, je vous réponds sur du court terme. Pourquoi ? Parce que les Israéliens ont mis le doigt sur quelque chose de très fondamental, qu'ils disent d'ailleurs depuis de très très nombreuses années, y compris dans les enceintes onusiennes, c'est qu'ils ne permettront pas à l'Iran d'avoir la bombe. Et il ne vous aura pas échappé que ce qui a été frappé, c'est une installation radar située à proximité d'installations nucléaires à Isfahan. Et donc pour Israël, il s'est agi de démontrer au monde entier, à ses amis ou ses alliés arabes, aux alliés occidentaux, mais surtout au régime iranien, que l'espace aérien iranien, finalement, est très vulnérable, contrairement à l'espace israélien. Donc pour l'instant, je vous dirais que oui, la crise est résorbée, mais à moyen ou moyen-long terme, si les Iraniens, ce dont je doute d'ailleurs, si le régime iranien décidait, coûte que coûte, d'aller jusqu'au bout de la tentative d'obtenir une bombe atomique, là, pour le coup, on aurait de nouveau une crise extrêmement aiguë.
Dernière question, Frédéric Ancel. On a parlé il n'y a pas si longtemps d'un accord sur la libération de quelques otages, peut-être une quarantaine d'otages, en échange de prisonniers palestiniens. Tout d'un coup, on n'en parle plus. Ça veut dire qu'il n'y a plus de négociations vraiment en cours qui ont des chances d'aboutir pour libérer des otages?
il y a toujours des négociations, y compris en temps de guerre, et ça c'est un grand principe géopolitique de toute éternité. Maintenant, ces dernières semaines, le chef de la branche militaire du Hamas, Sinwar, a rejeté pratiquement toutes les propositions qui avaient été faites, y compris pas seulement d'ailleurs par les Israéliens, hein, par les Égyptiens, les Jordaniens, les Américains, les Qataris même. Et là, on a un raidissement de nature pratiquement suicidaire, hein, me semble-t-il. Sur le plan des rapports de force, le Hamas dans la bande de Gaza est au bord de la chute, d'autant que les Israéliens ne sont pas prêts de partir pour l'instant. Du côté de l'Iran, on a, me semble-t-il, fait l'erreur. Le Hamas, en tout cas, a fait l'erreur, me semble-t-il, de croire que l'Iran allait venir au secours du Hamas via son attaque contre Israël. Or, l'Iran n'a jamais fait autre chose que d'instrumentaliser la cause palestinienne. Et si l'Iran a attaqué Israël il y a quelques jours, c'était parce qu'un général iranien avait été abattu par Israël, certainement pas parce qu'il y avait eu un problème entre Israël et les Palestiniens.
Merci beaucoup Frédéric Ancel, docteur en géopolitique, maître de conférence à Sciences Po Paris. Merci d'avoir été l'invité d'Europe 1 Soir, c'est toujours un plaisir. Je rappelle votre dernier livre, Atlas géopolitique d'Israël, aux éditions Autrement.
Europe 1 Soir.
Merci à tous de nous avoir suivis sur Europe 1. Rendez-vous demain pour un nouvel Europe 1 Soir. Excellente soirée. Place à la France Bouge, présentée par Elisabeth Assayag. Bonsoir Elisabeth, quel est le programme ?
Bonsoir Hélène Zélani. Ce soir, nous partons faire le tour du monde avec le guide du routard. Et oui, l'invité de la France Bouge, c'est Philippe Gloagen, le fondateur et le directeur du guide du routard. Ça fait plus de 50 ans que ce guide existe. Il n'a pas pris une ride. Il est réactualisé chaque année avec des précieuses adresses, des conseils. Entreprise française avec près de 120 salariés. On en parle juste après le point sur l'info.